Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide avec vous, en compagnie de Georges Léonard Sanu, en ce lundi 14 juillet 2014. Bonjour Georges.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde de football pour la quatrième fois.
L'Argentine a bien résisté, mais l'Argentine s'est inclinée comme en 1990 au Maracana, le temple du football. L'Allemagne a donc été sacrée, elle succède à l'Espagne.
Depuis Rio, Nicolas Pineau nous présentera son ultime journal de la Coupe du Monde. Autre titre, des affrontements meurtriers dans le nord du Mali à quelques jours des pourparlers de paix. En Libye, des combats à Tripoli pour le contrôle de l'aéroport. Et dans la partie magazine, les femmes de l'Est congolais s'organisent pour affronter les prochaines élections locales.
Un réseau des femmes des partis politiques est déjà opérationnel, précise Rosette Ndatabaye de l'UNC.
Toutes sont réunies pour une seule cause, la cause de la femme. Il n'y a pas respect des droits qui protègent les femmes.
Également à venir, la plage musicale en fin de magazine.
Et oui, au bout du suspense et de la prolongation.
Et comment ne pas ouvrir ce journal, Georges, avec le Mondial 2014 qui a connu son dénouement hier soir au Brésil.
Oui, Jacques, un match difficile, mais c'est finalement l'Allemagne qui s'est imposée à 1-0 contre l'Argentine dans les prolongations. À Rio, notre envoyé spécial Nicolas Pineau.
Lors de cette mission, il a fait le point de la situation.
Et voilà, un petit problème technique ce matin. On va essayer de régler tout ça, Georges. Évidemment, donc, cette grosse nouvelle concernant la Coupe du Monde. Donc, si peut-être maintenant on va pouvoir écouter ce reportage de Rio de Nicolas Pineau. On va essayer de voir rapidement si on peut le faire. Sinon, on va passer à l'actualité africaine. L'actualité africaine des combats. Non, ben, on va pouvoir écouter le reportage de Nicolas Pineau du Brésil.
Lors de cette mission, il a fait le point de la situation sur le terrain, notamment le rôle que joue l'AMINUSMA dans la stabilisation et sur à la fois le processus de cessez-le-feu signé le 24 mai dernier.
Mais également sur tout l'appui que nous apportons aux consultations qui sont engagées avec l'appui de plusieurs entités, y compris plus récemment l'Algérie, pour progresser sur la voie de la réconciliation nationale et vers un accord de paix.
Dans les discussions à venir, les Nations Unies joue le même rôle qu'à Ouaga en 2013.
Nous sommes en appui sans réserve. C'est ce que nous a demandé la dernière résolution du Conseil de sécurité qui vient de renouveler le mandat de la MINUSMA. Et c'est l'occasion de saluer le rôle du représentant du secrétaire général qui est plus que jamais impliqué dans toutes ces activités.
Le chef du département de maintien de la paix des Nations Unies a renouvelé la confiance du système des Nations Unies pour la paix et la sécurité au Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Oui, vous l'avez effectivement remarqué, c'était la voix de Kassim Traoré parce qu'en fait, je vous le disais en titre tout à l'heure, des combats ont fait une trentaine de morts depuis vendredi dans le nord du Mali entre les villes de Gao et de Kidal, d'après des agences de presse. Il s'agirait d'affrontements entre deux groupes séparatistes rivaux, le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, le MNLA, et le Mouvement Arabe de l'Azawad, le MAA, d'après une source militaire. De son côté, un porte-parole du MNLA a déclaré que des soldats maliens et des miliciens avaient été tués. Ces hostilités interviennent alors que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a confirmé hier que l'opération Serval au Mali allait prendre fin et être remplacée par Barkhane pour combattre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Pendant ce temps, des pourparlers de paix intermaliens sont prévus mercredi en Algérie, un sujet qui a donc dominé, comme vous venez de l'entendre, la récente visite au Mali du secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir revenir à ce reportage de Nicolas Pineau de Rio.
Et oui, au bout du suspense suspense et de la prolongation, l'Allemagne remporte ce 4e titre de champion du monde grâce à Götze qui a délivré à la 113e minute la Nationalmannschaft. Mais que ce fut dur, l'Argentine a bien résisté, mais l'Argentine s'est inclinée comme en 1990. Au Maracana, le temple du football, l'Allemagne a donc été sacrée. Elle succède à l'Espagne, maigre consolation pour les Argentins, puisque Lionel Messi remporte le trophée du meilleur joueur du tournoi. Mais cette Allemagne, qui avait notamment battu le Brésil 7-1, restera donc dans l'histoire comme la meilleure équipe de 2014. Coup de chapeau également au Brésil pour l'organisation, malgré les immenses critiques avant le début du tournoi contre le pays organisateur. Tout s'est relativement bien passé. Et on donne rendez-vous évidemment en 2018 en Russie où aura lieu la prochaine Coupe du Monde. Nicolas Pineau, Rio, la Voix de l'Amérique.
Nicolas qui revient un peu plus tard pour le journal de la Coupe du Monde. En Libye, le gouvernement a appelé à la cessation des combats et au dialogue suite aux affrontements qui ont fait 6 morts et 25 blessés dimanche à l'aéroport de Tripoli, ici à Aqaba.
Les autorités ont décidé de fermer l'aéroport durant au moins 3 jours. Une mesure prise en réponse aux combats qui ont opposé les milices de Zenten, qui contrôlent l'aéroport, et des éléments islamistes. Les combats se sont arrêtés juste avant la rupture du jeûne de Ramadan. Bilan, 6 morts et 25 blessés. Lors d'un point de presse, Ahmed Al-Amin, porte-parole du premier ministre libyen, a nié l'implication du gouvernement dans les événements d'hier. Le gouvernement a instruit le ministère de l'Intérieur et l'armée de sécuriser les quartiers de Tripoli et les installations vitales. Le gouvernement a également déclaré l'état d'urgence pour tous les hôpitaux et centres de santé, a dit le porte-parole. À Washington, le département d'État a exprimé ses inquiétudes samedi face à la violence en Libye. Un pays où libéraux et islamistes luttent pour le contrôle du Parlement.
En Algérie, Jacques, une explosion a tué 7 soldats et ont déclaré dimanche des responsables de la défense. Bagassi Koura.
3 soldats et 4 gardes municipaux sont morts dans l'attentat qui s'est produit samedi près de la ville de Sidi Chaïb, à environ 440 km à l'ouest d'Alger. Dans un communiqué publié sur son site web, le ministère de la Défense de l'Algérie a déclaré que les soldats soutenaient les forces auxiliaires locales quand ils ont été frappés par une bombe artisanale. Cet acte criminel ne fait que renforcer la détermination de l'armée nationale populaire à poursuivre et à éliminer ces groupes terroristes et à débarrasser le pays de leurs actes méprisables, a ajouté le ministère. Les gardes municipaux font partie d'un corps de sécurité mis en place par le ministère de l'Intérieur dans les années 90 pour aider à combattre le militantisme islamiste. Les responsables algériens sont préoccupés par les retombées de la crise en Libye, où les combattants liés à Al-Qaïda se réfugient dans les déserts du sud du pays. On se rappelle qu'en janvier de l'année dernière, des militants venus de Libye ont mené la pire attaque en Algérie depuis de nombreuses années, faisant 40 morts à l'usine de gaz de In Amenas.
Au Maroc, au moins 23 personnes ont péri dans l'effondrement d'immeubles d'habitation à Casablanca. Il s'agit d'un nouveau bilan diffusé hier soir par les autorités, 3 jours après la tragédie. Un bilan encore provisoire. 15 corps ont été retrouvés dans les ruines des 3 immeubles par les services de secours pour la seule journée d'hier. Une 60aine de personnes ont également été blessées lors de ce drame survenu dans la nuit de jeudi à vendredi pour une raison encore indéterminée.
Le secrétaire d'État américain John Kerry et d'autres diplomates occidentaux n'ont pas réussi à parvenir à un accord nucléaire avec l'Iran alors que l'accord intérimaire expire dans une semaine. Jean-Roger Bion.
Après les pourparlers d'hier dimanche à Vienne, le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a déclaré « il n'y a pas eu de percée ». Les négociations devraient se poursuivre ce lundi. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, va prolonger son séjour dans la capitale autrichienne pour des rencontres avec son homologue iranien. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, négocient avec Téhéran depuis des mois pour freiner le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran. L'Iran affirme que ses activités d'enrichissement visent à produire de l'électricité, tandis que les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux craignent que Téhéran ne cherche à développer des armes nucléaires. Téhéran a nié à plusieurs reprises ces accusations. John Kerry a admis que des lacunes importantes doivent être comblées avant qu'un accord puisse être signé. Il a également rappelé qu'il est essentiel de s'assurer que l'Iran ne va pas développer une arme nucléaire.
Merci Jean-Roger Billon. En Irak, les djihadistes sunnites de l'État islamique poursuivent leur marche sur Bagdad. Hier, les militants ont attaqué un village au nord de la capitale, saisissant les bâtiments de l'administration locale et tuant au moins 6 personnes. Chérubin Dorsil.
Selon les autorités, l'assaut de Douria, à environ 80 km au nord de Bagdad, a commencé tôt dimanche matin. Les forces gouvernementales ont repris cette ville le mois dernier après qu'elle eût été envahie par des militants liés à l'État islamique en Irak et au Levant, aujourd'hui appelé État islamique. Une nouvelle offensive vers Bagdad semble être en cours. Par ailleurs, des hommes armés ont pris d'assaut samedi un immeuble dans un quartier de Bagdad, tuant au moins 29 personnes, en majorité des femmes. Cette attaque n'a pas été revendiquée. Plus tôt samedi, Human Rights Watch a accusé les forces de sécurité et des milices pro-gouvernementales d'avoir exécuté illégalement au moins 255 prisonniers le mois dernier. Selon Human Rights Watch, la plupart de ces prisonniers étaient des sunnites qui avaient fui les groupes extrémistes de l'État islamique. Au plan politique, c'est toujours l'impasse au Parlement irakien. Hier encore, les législateurs n'ont pas réussi à choisir des candidats pour les postes de haut niveau, une étape nécessaire vers la formation d'un nouveau gouvernement. Une autre séance est prévue demain.
7e jour de frappes israéliennes ce matin sur la bande de Gaza visant à neutraliser le Hamas et ses tirs de roquettes. Pour la première fois depuis ce nouveau conflit, une roquette tirée de Syrie est tombée sur le Golan occupé par Israël sans pour autant faire de victimes, rapporte l'AFP. Malgré les appels de la communauté internationale, ni Israël ni le Hamas qui contrôle Gaza ne semblaient prêts à négocier la fin des hostilités qui ont fait au moins 170 morts et plus de 1000 blessés. À Ramallah, le président Mahmoud Abbas a demandé au secrétaire général Ban Ki-moon de placer officiellement l'État de Palestine sous le système de protection internationale de l'ONU.
Combat meurtrier dans l'est de l'Ukraine. L'armée tentait d'investir les villes de Lugansk et de Donetsk qui, hier soir, étaient encore sous contrôle des séparatistes pro-russes. Les affrontements ont fait plusieurs dizaines de victimes, dont des civils. De son côté, Moscou a mis en garde Kiev sur des possibles conséquences irréversibles après la chute d'un obus dans une ville russe frontalière de l'Ukraine, eut faire un mort, qualifiant cet incident d'agression de la part de l'Ukraine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité. Merci Georges et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branché sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap maintenant sur l'est de la République démocratique du Congo, où les femmes s'organisent pour affronter les prochaines élections locales, alors même que les partis d'opposition s'acharnent encore sur l'harmonisation du calendrier électoral publié par la commission électorale du pays. Les femmes battent campagne pour qu'elles soient solidement représentées dans les futures institutions de Goma. Le reportage de notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua.
Toutes les femmes des partis politiques semblent parler le même langage à ces sujets. Léonie Mugwelo est du PPRD, parti du chef de l'État au Nord Kivu.
Au sein de l'Assemblée provinciale, nous avons qu'une seule femme députée provinciale. Parmi les 42 députés provinciaux, elle est la seule. Donc c'est un résultat négatif. Je conseillerais aux femmes de la majorité comme de l'opposition qu'elles puissent être des candidates aux élections locales.
Cette mobilisation des femmes est motivée par le fiasco qu'elles ont eu aux élections de 2006. Félix Kavira, la seule femme élue pour la députation provinciale du Nord Kivu, parle de son expérience.
C'était facile parce que j'avais une base. Et c'était facile parce que j'étais déterminée. Et c'était facile parce que je ne cédais pas aux intimidations. J'ai connu de mauvaises expériences pendant la période électorale. C'est par rapport aux leaders politiques qui nous fait venir les femmes de Kinshasa et les mettre sur la liste électorale. Une personne qui venait de faire au moins 20 ans, 30 ans à Kinshasa, même les gens de ce village l'ont oublié et commencent à se porter candidate. C'est difficile de passer.
La province du Sud Kivu a de l'avance par rapport aux autres provinces de l'Est du pays. Un réseau de femmes des partis politiques est déjà opérationnel, précise Rosette Ndatabaye de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe.
Ce réseau regroupe toutes les femmes membres des partis politiques. Que ces membres puissent être de la majorité ou bien de l'opposition, toutes
sont réunis pour une seule cause, la cause de la femme. Parce que nous avons vu qu'il n'y a pas respect des droits qui protègent les femmes. Et nous nous sommes dit qu'ensemble, nous pouvons avoir un plaidoyer pour accéder à nos droits et pouvoir confronter le problème qu'il faut que nous ne puissions pas accéder à la prise de décision de la femme en RD Congo.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Autre pays, autre élection, le Niger vient de mettre sur pied une commission chargée d'organiser les toutes premières élections professionnelles afin de déterminer la représentativité réelle des différentes centrales. Les enjeux avec Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
Le principal enjeu de ces élections est la détermination de la représentativité des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs présentes sur le territoire nigérien. Seules celles qui auront en effet été déclarées représentatives pourront engager et négocier légitimement avec le gouvernement au nom des travailleurs ou des employeurs. Amadou Harouna Maïga est le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, le plus vieux regroupement de syndicats.
Il y a trop de désordre sur le plan syndical dans ce pays. De 1960 jusqu'à 1996, il y avait une seule organisation syndicale, l'USTN. Aujourd'hui, nous sommes à 13 centrales syndicales. Nous avons des centrales syndicales dont les SG n'ont même pas de syndicats. En dehors des centrales syndicales, il y a aujourd'hui des syndicats sectoriels où vous dénombrez plus de 50 syndicats. Ça, ce n'est pas normal. Le mécanisme qui consiste à freiner, à arrêter donc ce désordre, c'est d'aller vers les élections professionnelles qui sont d'ailleurs prévues par notre droit positif, donc le Code du travail.
Malgré leur implication dans le processus, certaines centrales syndicales trouvent très peu, par exemple, le nombre de voix requis pour déclarer une centrale ou un syndicat représentatif sur l'échiquier national. Innocent Raphaël, membre du bureau exécutif de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger.
Du côté de notre centrale, nous n'avons pas encore perçu totalement ces élections en train de se préparer comme il le faut. Lorsqu'il faut amener une centrale syndicale pour dire qu'avec 5% de l'électorat, elle est représentative, nous disons que c'est très peu, c'est un score dérisoire qui ne reflète pas quand même pour aller être dans la légitimité de parler au nom des travailleurs. Puisque c'est déjà décidé, allons-y, mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes que nous avons relevés dans le contenu de l'arrêté que je ne vais pas dévoiler.
Le Niger compte actuellement une quinzaine de centrales syndicales. À côté d'elles, il y a une multitude de syndicats du patronat, sans compter les nombreux syndicats non affiliés. Les élections professionnelles pourront donc mettre un peu d'ordre dans tout cela. La commission qui sera chargée de l'organisation de ces élections a été mise en place avant la fin de l'année. C'est cette commission qui doit établir la base de données de tous les travailleurs et employeurs concernés par ces élections. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour La Voix de l'Amérique.
Revenons au dialogue intermalien prévu mercredi en Algérie. La délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires étrangères quitte Bamako ce lundi après-midi. Mais sur le terrain, des voix s'élèvent pour réclamer une large concertation avant les pourparlers avec les groupes armés du Nord Mali. De même qu'une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes dans le processus de réconciliation. Nous retrouvons Kassim Traoré dans la capitale malienne.
C'est le Premier ministre malien qui a donné la nomenclature de la délégation malienne qui doit prendre part aux discussions d'Alger. Moussa Mara, Premier ministre.
Nous allons y participer au niveau du gouvernement à travers une équipe constituée de plusieurs ministres sous l'égide du ministre des Affaires étrangères, M. Diop. Nous allons participer au processus avec une équipe de compétences, d'expérience avérée sur ces questions. Et devrait se tourner définitivement vers la nécessité de bâtir ensemble un avenir pour nos enfants. Et cet avenir, nous ne pourrons le bâtir que dans le don de soi, dans le sacrifice mutuel.
Sur le terrain, les populations sont plutôt préoccupées par les questions de réconciliation, surtout avec le retour en masse des réfugiés du Niger, Nomba Gamane, de la société civile.
La réconciliation, il faut la lier à une activité. Donc, allez, réconciliez-vous, sans rien, sans savoir. Toi qui dis de les réconcilier, qu'est-ce qui va te prouver qu'ils se sont réconciliés? Le paysan, il est assez profond. Il y a eu des jeunes qui ont fui, qui sont partis au Niger, qui sont partis en Algérie, qui sont partis en Mauritanie, au Niger, au Burkina. Et ensemble, ils vont gérer leur comité de gestion. Donc, pour nous, c'est intimement lié. Réconciliation et reconstruction. La reconstruction peut jouer sur la réconciliation.
Pour les femmes de la région de Tombouctou, le processus de réconciliation est très mal parti, car il y a eu une exclusion des vrais acteurs. Fatmata Maïga, de la coordination des femmes de Direi.
Un processus qui vient de commencer, ça ne doit pas être la finalité. C'est d'impliquer les principaux acteurs qui sont à la base. Il faut commencer d'abord par la base pour remonter au sommet. Parce que tous les problèmes viennent de la base. Il faut que les familles, on doit faire réconcilier les familles entre elles d'abord, avant de remonter au niveau des autorités.
Les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, pensent qu'une large concertation serait nécessaire avant le début des vrais pourparlers. Tcheblé Ndramé, président du Parena.
Doit réunir au plus vite une table ronde, majorité opposition, élargie aux autres forces vives du pays, pour élaborer une plateforme et une vision malienne.
Et voilà, Kassim Traoré à Bamako. Sans plus tarder, le journal de la Coupe du Monde présenté depuis Rio de Janeiro par Nicolas Pineux, l'envoyé spécial de la VOA au Brésil.
Bonjour à tous, dernier numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil, l'Allemagne sur le toit du monde. Put your flags up in the sky, in the sky. And when I'm sad, 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 sad. L'Allemagne sur le toit de la planète football. Les Allemands ont remporté la 20e Coupe du Monde de l'histoire en battant l'Argentine 1-0. Que ce fut dur. Au terme des prolongations, la Mannschaft a décroché hier sa 4e Coupe du Monde de l'histoire dans le temple du football au Maracana. Grâce à un but de Götze à la 113e minute, la National Mannschaft succède au palmarès à l'Espagne. Écoutez tout d'abord la joie de ses supporters allemands recueilli hier soir ici à Rio.
C'est incroyable, c'est super, c'est sûrement le plus beau jour de ma vie. C'est une autre année, je n'arrive pas à y croire. Je suis au Brésil, on a la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe du monde.
Incroyable.
Au début, je n'y croyais pas, je me sens trop bien, je ne peux même pas le décrire.
Voilà pour ces réactions de supporters allemands après la victoire ici à Rio. Ce matin, l'Allemagne est donc la meilleure équipe du monde. Le capitaine allemand Philipp Lahm a déclaré après la victoire « Nous nous sommes améliorés tout au long du tournoi et n'avons jamais laissé tomber, même quand les choses n'allaient pas comme nous le voulions. » Nous avons conservé notre plan et à la fin, nous sommes devenus ici champions du monde. Manuel Neuer, de son côté, est sacré meilleur gardien du tournoi. Pour Kader Traoré de football226.com, la victoire allemande est méritée en raison de la belle performance de la sélection durant tout le tournoi.
Je crois que la victoire de l'Allemagne à cette Coupe du Monde est pleinement méritée. Vu leur parcours dans cette compétition, et vu surtout leur demi-finale explosive face au Brésil, c'était tout à fait évident qu'ils soient les favoris à cette finale-là. Et on a été même un peu peiné de voir l'Allemagne aller jusqu'en prolongation, parce qu'on se disait que rapidement ils allaient plier le match, vu que l'Argentine était beaucoup fatiguée, hein, ça il faut le reconnaître. L'Argentine a tué trois fois les prolongations dans cette Coupe du Monde-là. En quart de finale, en huitième de finale, en demi-finale. Donc forcément, il s'était éprouvé physiquement, il s'était difficile qu'il puisse concurrencer les Allemands, très en jambes et beaucoup physique.
Et comment vous avez trouvé la performance de Lionel Messi?
Lionel Messi était vraiment l'homme à surveiller du côté argentin. Vous voyez que dès qu'il touchait le ballon, il y avait au moins deux joueurs allemands qui étaient sur lui. On l'empêchait de pouvoir contrôler le ballon et de frapper. Lionel Messi n'a fait qu'une seule frappe dans cette compétition, dans cette finale-là, et c'est une frappe non cadrée. Donc, c'est dire que les Allemands ont amplement étudié son jeu, surtout quand il prend le ballon, il pique forcément dans l'axe, il se met sur son pied gauche et il essaie de frapper. Donc, les Allemands ont pu bloquer ce côté-là, et c'était difficile, parce qu'avec l'absence de Di Maria, avec la méforme de Kun Agüero, c'était difficile que l'Argentine puisse s'en sortir avec un Messi surveillé comme du lait sur le feu.
L'Argentine reste donc scotchée à deux victoires et son capitaine Lionel Messi manque l'occasion d'égaler l'idole Diego Maradona et d'entrer définitivement dans le cœur des supporters argentins. Maigre consolation pour la star du FC Barcelone, il est sacré meilleur joueur du tournoi. Le podium de ce mondial est complété par les Pays-Bas. Les Oranges ont battu le Brésil samedi 3-0 à Brasilia lors de la petite finale. C'est donc une nouvelle débâcle pour les Brésiliens. Et la presse réclame depuis la démission du sélectionneur Luis Felipe Scolari. Écoutons ce matin le dernier coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin-Gouy. We celebrate the best African
football. Bonjour. Dans les années 70-80, au plus fort des années fétiches du football panache du Brésil, la Seleção retenait pour son équipe nationale 300 joueurs en première présélection avant de ramener le nombre à 80, puis à 40 et enfin à 23. Les talents créatifs abondaient et les sélectionneurs avaient du mal à identifier les meilleurs parmi les meilleurs, au point que la mythique équipe de 1970 comptait en son sein, en même temps, les 5 meilleurs numéros 10 du championnat national du moment, Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino et Paulo César Lima, ce qui permettait à Mario Zagallo, l'entraîneur, d'oser toutes les audaces tactiques imaginables. Or, la défaite du Brésil dans la petite finale de samedi a, faute de provoquer un cataclysme social, permis même aux plus inconditionnels de faire l'état des lieux. À force de flirter avec les valeurs contre nature du football européen, le Brésil a tari la source de ses talents géniaux. Les entraîneurs les plus controversés du pays, Scolari et Pereira, du haut de leur piédestal de champion du monde et des confédérations, ont préféré amener en compétition une équipe en construction plutôt que de miser sur l'expérience. La suite, on la connaît. Le Brésil a vu le calice jusqu'à la lie. La nette victoire des Hollandais pour la troisième place véhicule donc un message clair pour le Brésil. Il faut se remettre au travail et réinscrire une nouvelle histoire à l'image de l'Allemagne, champion du monde 2014, 24 ans après, sur les terres du Brésil. Au revoir et à bientôt.
La Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne, cette Coupe du Monde a été très prolifique, 171 buts marqués, tout comme lors du Mondial 1998 en France, année record. Le Brésil a donc passé la main à la Russie qui va organiser la prochaine compétition dans 4 ans, en 2018. Et malgré les doutes et les critiques avant le tournoi, les Brésiliens ont réussi le pari de l'organisation de cette Coupe du Monde, comme nous l'explique le journaliste suisse Jean-Jacques Fontaine.
Les choses ont bien fonctionné. Tous les visiteurs ont été surpris de la chaleur de l'accueil brésilien. Les matchs se sont déroulés dans de bonnes conditions dans les stades. Tout ce qu'on a dit qui allait mal se passer, s'est bien passé. Et même Blatter, qui, la FIFA disant au départ que vraiment le Brésil était mal préparé et tout, même Blatter qui déclare que c'est la plus belle Coupe du Monde qui ait jamais été faite. Mais ça n'efface pas le fait qu'effectivement une bonne partie de l'héritage qui était prévu, notamment en termes d'infrastructures dans les aéroports, les transports urbains, etc., n'a pas été achevé et reste en panne. Ça n'évacue pas le fait que toute une série de problèmes et de défis que le Brésil a connus avant la Coupe du Monde et continue à connaître sont toujours là. Je pense que le Brésil a envoyé un message très très important qui est celui de sa capacité de recevoir et d'accueillir. Et je crois que l'image du Brésil, qui était effectivement assez détériorée juste avant la Coupe du Monde, a été profondément revalorisée dans l'opinion publique internationale.
Jean-Jacques Fontaine, auteur du livre « L'invention du Brésil ». Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, préparé une dernière fois par Bagassi Koura et Nicolas Pinault. Ce fut un immense plaisir d'être avec vous tous les matins depuis le Brésil. Jacques et tous les fidèles de la Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com. À ce soir dans Sporama, où je vous retrouverai depuis Rio.
Merci bien Nicolas, voilà pour Le Monde aujourd'hui. Georges Léonard Sagnieu a dirigé la mise en onde. Jacques Aristide au micro.